Vos désirs sont des ondes. Deuxième partie d'une entrevue avec Elliott Maginot, musicien auteur dont le plus récent album, Easy Morning, a été l'occasion de rencontres inédites, prolifiques, hors de l'ordinaire. Certaines de ces rencontres ardemment souhaitées, comme des désirs, d'autres dues au hasard, comme le résultat d'une sérendipité stimulante. Elliott Maginot est auteur, compositeur, interprète natif de Saint-Hyacinthe au Québec. Sur l'album Easy Morning, sa musique est rêveuse, acoustique, folk, rock, habillée de cordes, de cuivre et de sonorités ouest-africaines. Plusieurs musiciens se sont joints à cette aventure. Mathieu Le Guerrier à la batterie, Émile Farley à la basse, ainsi qu'Elhaj Diouf aux percussions et Salif Sanou, alias Lasso, aux flûtes et cora, auxquels musiciens se sont ajoutés tout plein d'autres amis et complices, dont Antoine Graton, aux idées géniales. Quand Elliott Maginot parle de son troisième album, il mentionne « Easy Morning a été écrit et enregistré durant la plus étrange des périodes, tant au niveau global que personnel. L'ensemble du processus s'est avéré être un véritable défi émotionnel et mental pour moi par moments. Il pouvait être plus facile de perdre de vue le sens de son métier, s'il y en avait un au départ, et de s'égarer dans les doutes inévitables qui accompagnent l'acte de création lorsqu'on navigue dans les incertitudes d'une pandémie mondiale. Et cela m'est arrivé, nous confie Elliott Maginot. Heureusement, j'ai pu compter proche de moi sur des personnes très attentionnées, talentueuses et dévouées pour m'aider à me remettre sur les rails, qu'elles s'en soient rendues compte ou non. Je tiens ici à prendre le temps de les remercier du fond du cœur. Easy Morning, qu'est-ce que ça représente dans ta démarche? C'est le troisième, bien sûr, c'est le plus récent. T'es rendu où, toi, dans ta démarche personnelle? Elliott Maginot, il a quel âge maintenant, puis il veut faire quoi, là, tu sais, sans aller dans le futur, mais juste avec ce qu'il vient de nous proposer?
C'est vraiment la réponse plate, mais j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, puis de peut-être plus le faire. C'est-à-dire que j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire des spectacles, puis de me promener avec mes amis. Fait que j'ai envie de le faire plus. Je pense que j'ai envie de continuer à profiter de ce qu'il y a de beau dans cette vie-là, de musicien, puis dans ce métier-là. Parce que pour l'instant, ça me drive encore beaucoup. Fait que si ce disque-là peut me permettre de faire ce que je faisais avant, mais de le faire encore plus, je vais dire que c'est mission accomplie. Mais ouais, c'est la réponse concrète plate, mais c'est vraiment... Le but de tout ça, c'est de faire des spectacles, en fait. La quintessence de tout ça, c'est de faire des shows, puis de jouer pour des gens qui ont envie de t'entendre, puis de te plugger à quelque part avec les gens qui sont dans la salle, de te plugger à quelque part avec les gens qui sont avec toi sur le stage. Je pense que c'est le but ultime, c'est ça. Là, après ça, faire un disque, c'est juste une espèce de carte de visite qui te permet d'aller faire des spectacles. Mais ma job, c'est de faire des spectacles, c'est ça que j'aime.
C'est vraiment intéressant. Comment tu te sens avant un spectacle, toi? T'es-tu angoissé? T'es-tu préoccupé? Oh mon Dieu, vais-tu me rappeler de tout? Je suis correct avec ma voix? Comment c'est avant un spectacle, toi?
Tout ça, je pourrais t'en reparler après cette tournée-là. Parce que là, on vient de faire les deux premiers spectacles de la tournée. C'était les premiers spectacles, en guillemets, post-pandémie. Puis c'est pas le même état mental. Je pense qu'à la fin de l'autre tournée, on était vraiment dans une zone très confortable. On était dans nos pantoufles. On connaissait le show sur le bout de nos doigts. On l'avait fait beaucoup, beaucoup. On était super rodés. Fait que ça fait que tu t'es plus. En tout cas, on était assez confortable. Puis il y avait moins l'angoisse Il y avait moins l'angoisse de est-ce que je vais me tromper? Est-ce qu'il va y avoir des gens dans la salle? Est-ce qu'on a vendu des billets? Est-ce que j'ai oublié des paroles? Tout ça. Puis là, c'est ça. Fait que j'étais assez confortable à la fin de l'autre tournée. Puis là, on dirait que le c'est ça, la pandémie a été dure sur le mental, la santé mentale de beaucoup de gens.
Oui.
Fait que disons que les premiers spectacles, c'était un peu plus, il y avait des nouvelles peurs que j'avais jamais expérimentées avant,
qui
vont être intéressantes à maîtriser ou à placer à la bonne place dans la tête, là.
Oui.
Mais je prétends dire plus quand on aura un petit peu plus de chaud derrière la cravate.
OK, on s'en reparlera. Mais là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est assez particulier. J'ai lu dans l'article dans Le Devoir, il y avait un article sur toi dans Le Devoir sur ta démarche artistique par rapport à ce dernier disque-là qui s'appelle Easy Morning. Et tu mentionnais que, tu t'es retiré, en fait. Double confinement, comme disait le journaliste, en dehors de celui que la société nous propose. Tu t'es retrouvé dans le bois, tout ça, et tu travaillais seul. Est-ce que ça a teinté ta démarche particulièrement, la pandémie, et de quelle façon, finalement?
C'est sûr que oui. Je pense que les deux trucs que ça a vraiment beaucoup changé, c'est le fait de travailler sur quelque chose. C'est comme je te disais tantôt, le spectacle, c'est-à-dire le disque devient une espèce de carte de visite du spectacle, mais là, c'est comme si je travaillais sur une carte de visite en sachant pas si... T'sais, les nouvelles étaient tellement mauvaises qu'il y a vraiment eu un bout où on se disait, mais est-ce qu'il va rester une industrie? Est-ce qu'il va rester un réseau de salles de spectacle? Oui. Est-ce qu'on va encore avoir un job quand tout ça sera fini? T'sais? Mm-hmm. Ça a fini par se placer, puis on a fini par... Mais les premiers mois, c'était vraiment, hey, est-ce que... Donc, des fois, il y avait une espèce d'impression de pas de travailler dans le vide, mais de travailler sur quelque chose pour lequel on ne saura jamais si... On ne sait pas encore s'il va y avoir un aboutissement ou si... T'sais, parce qu'on dirait que souvent, ce qui motive à écrire une chanson, tu peux écrire une chanson, puis après ça, la tester le lendemain en spectacle, si tu veux, t'sais. Puis voir les réactions, tu peux tout de suite la jouer avec les musiciens, voir comment ça se passe. Fait qu'il y a une gratification plus instantanée, disons, d'habitude. Tandis que là, c'était probablement qu'il n'y aura pas de spectacle pour au moins la prochaine année. Tu ne pourras pas la jouer avec tes musiciens pour au moins les 8 prochains mois. Fait qu'il y avait quelque chose de plus abstrait qui rendait l'exercice un peu plus compliqué dans la tête, là, qui rendait ça un peu plus diffus, disons. Fait que c'était un peu plus dur de trouver une espèce de motivation à aboutir les trucs et à faire le peaufinage. Puis il y a aussi l'aspect que j'avais moins de... Comme j'étais tout seul dans mes trucs, que j'étais vraiment coller le nez dedans, c'était plus dur d'avoir une perspective, puis c'était plus dur de savoir quand j'étais sur un bon filon que quand j'étais en train de perdre mon temps sur des mauvaises idées. On dirait que j'avais plus de retour, j'avais plus de recul sur ce que je faisais. J'étais dans ma bulle. Ça a été assez frustrant par bout. Ça a été plus ardu, disons, de séparer le bon grain de l'ivraie.
Okay. Commence par la toune Emilio. Emilio, c'est toi?
Non, Emilio, c'est pas moi.
Écoute, il dit quelque chose comme c'est sorti mal, c'est sorti tordu, j'ai enterré les mots, mais maintenant j'en ai besoin. Où étais-je quand il était le temps de me débarrasser de ma vieille peau et de renaître? J'ai dit, ça devait être durant la pandémie, ça. C'est pas toi, ouais, je pensais, j'ai dit.
Je vais te donner un scoop qui va déromantiser complètement la chanson. En fait, Emilio, c'est juste un hommage à Emile Farley qui joue la basse sur le disque. C'est que pendant qu'on faisait le disque avec moi et Connor, on laissait toujours les micros allumés entre les prises. On enregistrait les musiciens à leurs insu. Fait qu'on avait tout le temps entre chaque take, on déconnecte comme c'est pas possible. Fait qu'on a plein de bouts, de bribes, de bruit. Puis à la fin de cette chanson-là, à la fin de la take de base de Emile, quand on savait que c'était la bonne, puis qu'il y avait juste torché, tout le monde était comme oh, Emilio! Puis là, on, à la fin de la chanson, on a laissé, je sais même plus qui crie, mais il y a un de nous qui crie Emilio. puis on s'est mis à l'appeler la chanson comme ça, comme titre de travail, avant que j'ai trouvé un titre. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, tu sais quoi, Emilio, je me souviens plus c'était quoi, là, c'était comme une affaire de Paris. Je suis comme, hey, je vais nommer ma chanson Emilio, puis il était comme, ah, t'es sérieux? Puis j'étais comme, ah, mais je peux plus reculer, il faut que j'y aille. Donc, j'ai tenu ma promesse, bon. Ma chanson s'appelle Emilio, mais clairement, ça parle pas d'Emilio.
C'est juste non.
Un hommage, non.
Ok, ok. Mais est-ce que ça parle de toi?
Ben oui, certainement. Pour l'instant, j'écris toujours,
toujours
à la première personne.
C'est
ça.
C'est la seule écriture que je capte. Ah, ok. Je pense que ça doit être un anagramme. Si on mélange les lettres, puis Yot, Maginot, Emilio, bon, il y a les mêmes lettres.
Il y a des lettres qui se recoupent, clairement, ça aurait fait quelque chose comme ça. Ah, ça aurait été bon, ça. Je vais faire ça, le prochain disque, un anagramme.
Ça m'amène à penser aussi, parce qu'on parle de ça, on parle de disque, on parle de production. Tu disais, un disque, c'est une carte de visite. C'est une chose qu'on envoie aux gens en leur disant, venez nous voir, hein, venez nous voir en spectacle, tout ça. Mais c'est plus que ça pour des gens comme moi, par exemple. Parce qu'un disque, c'est comme une matérialisation d'une production achevée, là, tu vois. Tes disques, la façon que tu travailles, toi, c'est du début de la première tune à la dernière. Je dirais que tu travailles un peu à la manière des années 70-80, que tu aimes bien, d'ailleurs, je pense, c'est des influences pour toi.
Oui, oui, clairement.
Et tu produis tes disques un peu de la même façon. Il y a comme un pacing dans l'enchaînement des tunes, tout ça. Il y a comme une façon de voir, je pense. En tout cas, moi,
oui,
je l'aperçois.
Oui, certainement. Certainement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est le disque qui est plus important pour... je veux dire, moi, quand j'écoute un disque d'un artiste que j'aime, c'est la chose la plus importante, puis le pacing est super important. Mais pour la personne qui le fait, une fois que le disque est fait, c'est fini, là, dans le sens que je ne vais pas écouter mon disque, dans le sens que...
Oui, je comprends.
Le disque n'existe plus, bon, tout ce qui existe, mais après ça, c'est les spectacles, c'est ça qui devient la réalité. Non, pour, comme consommateur de musique, le disque est extrêmement important, puis l'œuvre dans son ensemble, c'est super important.
Et tu ne te sens pas, toi, anachronique avec cette façon-là? Parce que maintenant, les gens font une toune, ils la mettent sur le net, puis ils adviennent que pourra. Et il n'y a plus cette espèce de dimension. C'est quoi la proposition de l'artiste là-dedans?
Ouais, ouais.
C'est quand tu n'as pas 8, 9, 10 tounes qui s'enchaînent, où là, tu as une thématique qui se développe. Tu as les mêmes musiciens qui ont peaufiné un son, tu sais. Mm-hmm. C'est beau, ça, en soi. C'est comme un tableau ou un triptyque plutôt qu'un tableau seul, là, tu sais.
Ben, je pense que c'est encore important pour plus de gens qu'on pense. Clairement, le climat global est à la playlist et au single puis tout, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui consomment l'album comme un tout. Puis il faut pas se... Je pense qu'il faut... C'est terrible ce qui se passe. Puis il y a plein de choses extrêmement dommages qui arrivent, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dramatiser l'art n'est pas en perdition. Là, je pense que les gens qui apprécient l'art, il y en a encore beaucoup. Puis je pense qu'il y a un retour qui s'opère déjà. Puis je pense qu'il va continuer à s'opérer. Fait que je pense que c'est encore important de le faire. Puis je pense que c'est pas tant que ça un acte de résistance. Je pense que c'est quelque chose qui parle encore à beaucoup de gens, puis c'est quelque chose qui va de soi pour encore beaucoup de gens. Fait que moi, ça m'intéresse de continuer à le faire.
C'est une forme d'expression artistique encore extrêmement valable pour toi. Hein? Plus que l'addition de différentes tunes, ça
va être
un concept, finalement.
Ben oui.
T'as un titre, t'as un son, t'as des gens avec qui t'as travaillé, t'as des préoccupations de transmettre quelque chose.
Ouais, puis c'est intéressant de voir l'album prendre forme par lui-même aussi, dans la mesure où il y a certaines chansons qui ont été écrits dans la même période, qui ne s'y retrouvent pas parce que ça ne marche pas, puis que l'album les rejette en guillemets. C'est intéressant de voir comment un album, à un moment donné, finit par créer sa propre identité, puis finit par te faire comprendre que cette chanson-là ne marchera pas sur l'album, ça ne marchera pas, puis on dirait que c'est intéressant pour ça de créer quelque chose de cohérent, puis qui se tient en lui-même.
To do.
Quand on te regarde sur ta pochette, par exemple, Easy Morning, tu es assis comme dans une salle où il y a beaucoup de fauteuils, on dirait une salle de cinéma, mais ce n'est pas le type de fauteuil qu'on retrouve là-dedans, et tu fixes le ciel. Alors moi, je me dis, ça, c'est le côté rêveur d'Eliott. Il regarde le ciel, le sky is the limit. Là, il est tourné vers le ciel, est-ce que je me trompe?
Mais c'est sûr que c'est l'attitude que j'aimerais avoir. Je ne sais pas si je l'ai, mais... clairement, vaut toujours mieux regarder vers le ciel que regarder ses pieds. Mais je pense que, je pense que tout ça, le but de tout ça, de tout cet univers-là, c'est de rêver. Parce que des fois, la vie concrète n'est pas si le fun que ça. Fait que clairement, c'est en haut que ça se passe. C'est au-dessus que ça se passe.
Ton écriture porte à rêver. Elle n'est pas forcément directive. Souvent, les phrases vont s'enchaîner. Tu vas dire « qu'est-ce qu'il veut dire? » Puis là, si tout à coup, tu arrêtes de poser la question « qu'est-ce qu'il veut dire? » Puis pose la question à toi, qu'est-ce que ça me fait, cette phrase-là?
Ouais.
Là, ça devient drôlement intéressant, ça devient quelque chose. Tu t'investis, toi, dans cette chanson-là, puis tu y mets ton histoire. Et moi, là, j'ai écouté ton disque Easy Morning de cette façon-là, et ça a fonctionné full pin, comme on dit. T'sais. Je me suis retrouvé dans ce disque-là complètement, puis je me suis dit, mon Dieu, mais c'est mes histoires que je mets là-dedans. Là, que,
mais c'est ça qu'il faut. À lui, c'est ça que ça doit être. Moi, je pense que ça doit être, en tout cas, un texte, ça doit être juste un réceptacle pour recevoir les histoires des gens ou l'interprétation des gens, que c'est tellement pas... Dans le sens que, tu sais, à moins qu'il t'arrive quelque chose d'absolument grandiose dans ta vie puis t'écris un texte descriptif d'en parler, les événements ou les pensées qui ont motivé un texte, c'est tellement pas important, dans le sens que c'est souvent des trucs très passagers ou c'est des choses, on s'en fout, des choses de la vie de tous les jours qui n'ont absolument aucune importance. Fait que ce qui est important, je pense, c'est de créer que ton texte soit un bol qui peut recevoir toutes les histoires des gens, puis que les gens l'écoutent, puis que ça fasse « ah oui, ça leur rappelle un truc qu'eux, ils ont vécu, parce que sinon... »
Qu'on y retrouve sa saveur, finalement.
Ouais, exact.
Parle-moi donc de comment tu as écrit... Je prends au hasard, pas au hasard, parce que je l'aime beaucoup, là. J'aime la chanson « Holy Father » sur l'album « Easy Morning ». Parle-moi donc comment tu l'as écrite, cette chanson-là.
Ben, celle-là, dans le timeline, c'était une des dernières. Elle et Emilio, on les a écrits, je les ai écrits en dehors d'espèces de blocs très isolés là, du premier confinement. Là, on était déjà en studio, puis on était l'été, puis on était déjà dans le... Fait que ces deux-là ont pas le même... ont pas été créés dans le même environnement, ni dans le même état d'esprit.
Okay.
Je pense que c'est ma chanson la plus dont le texte avait le but le plus précis, puis c'est vraiment une chanson sur la complexité des relations père-fils, puis okay. pas nécessairement la mienne avec mon père. C'est vraiment plus c'est des discussions que j'ai eues beaucoup dans l'année précédente avec plein d'amis puis plein de gens, puis où je me rendais compte que les patterns étaient très similaires d'une relation à l'autre ou d'un père à l'autre, qu'il y avait des trucs très probablement générationnels dans ce que ça représente d'être un gars à une certaine époque, puis dans les problèmes que ça amène. Fait que c'était juste un constat de finalement, on a à peu près tous les mêmes problèmes, puis on fait face à peu près à tous les mêmes genres de situations. Mm-hmm. Puis là, la relation père-fils était le prétexte, parce que j'étais beaucoup là-dedans, puis j'étais dans mon cheminement personnel, disons.
T'es un jeune homme, et c'est typique de cette démarche-là, hein? C'est
ben oui.
Dans sa relation avec son père.
Ben oui, si t'arrives à un âge, t'es comme « OK, là, mon père est plus tout à fait jeune, puis il va pas rajeunir, puis il y a plein d'affaires que j'ai pas réglées, puis il y a plein de choses dont on n'a jamais parlé, il y a plein de canaux de communication qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais développé, puis si je veux que ça se passe, il me reste pas grand temps. Enfin, que c'était beaucoup, puis je me rendais compte que tous mes amis étaient à la même place. Just go.
Elle est très belle, cette chanson-là. Les arrangements de voix sont très doux. C'est très, c'est vraiment porteur. Puis ça me rappelle un peu une inspiration d'un musicien que tu connais peut-être des années 70, mes années à moi, qui est Murray Head. Je ne sais pas si tu connais Murray
Head.
Non,
je ne connais pas, non.
Il y a une chanson qui s'appelle « Say It and So ». C'est pas, okay. La chanson n'est pas cette chanson-là, mais ça me rappelle ça comme feeling un peu, tu vois. C'est vraiment intéressant.
Ok, tu vas aller écouter ça en réfléchissant.
Oui, t'écouteras ça. Tu vois. On parle des influences, justement, c'est intéressant parce que je lisais dans les différents articles. Tu as mentionné dans une entrevue Phil Collins, tu as mentionné Alain Souchon, Leonard Cohen, on en a parlé tout à l'heure, Bruce Springsteen, c'est quand même des gros noms. C'est pas forcément des choses qu'on retrouve dans ta musique, mais ce que j'entends, c'est des gens qui t'ont influencé dans leur démarche, leur proposition.
Ouais, puis je pense que quand on parle d'influence aussi, tu sais, quand on nomme nos propres influences, je pense qu'on fait plus nommer des artistes auxquels on voudrait ressembler, ou tu sais, je pense que c'est très très rare que t'écoutes quelque chose puis t'entends. Souvent, je pense que quand on dit influence, on parle plus de tentative d'imitation. Là, puis je le dis sans gêne parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. On imite ceux qu'on admire puis ceux comme qui on voudrait sonner. Fait que tu sais, je pense que l'affaire de Phil Collins aussi, ça a beaucoup été la couverture médiatique du dernier disque parce que dans les traitements des drums puis tout ça, il y a quelque chose de très. Disons que Phil Collins avait une approche tellement caractéristique des drums qu'après ça, dès que tu te vois un peu dans ces eaux-là, c'est le nom qui sort spontanément. Puis Cohen, ben, je pense que c'est impossible d'être un musicien montréalais puis de pas dire que c'est une influence parce que c'est tellement énorme puis tellement. Je pense que ce que j'aime beaucoup de Cohen, justement, c'est le spectre de ses trucs. Tu sais, les premiers albums qui étaient guitare-voix puis après ça, les trucs qu'il a fait dans les années 80 où il a fait des trucs qui sont complètement cheesy, là, entre guillemets, dans les arrangements, puis que j'adore, puis c'est le spectre de tout ce qu'il a fait. Je pense que c'est admirable pour quelqu'un qui a commencé si tard aussi, là, qui a vraiment commencé à 40 ans à faire des disques. Fait que c'est impossible de pas être un fan, puis de pas être influencé par cet homme-là, c'est sûr.
Oui, puis il a frayé avec les plus grands de sa génération, là, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Un grand qui a influencé tout le monde, tu sais.
Ouais.
Et qui est porté encore maintenant par tout le monde. On n'a pas fini de l'entendre,
Noël.
Il y a une grande œuvre. C'est vraiment quelqu'un de très, très grand, puis de particulièrement intéressant. Écoute, moi, j'ai pas mal fait le tour, mais j'aimerais ça finir avec toi avec deux chansons que j'aimerais faire jouer dans le contexte de notre projet à nous deux.
OK.
Et pour une raison, parce que quand je les écoutais, je me disais, non, c'est drôle, il a utilisé une expression en anglais, bien sûr, parce que tes textes sont en anglais, dans la chanson « You are free » et dans la chanson « True love might not find you in the end », tu en parlais tout à l'heure, on en a parlé un peu plus tôt. Dans les deux cas, il y a une expression qui dit « nowadays ». Qui n'est pas une expression qu'on entend tant que ça en anglais, tu vois. C'est de nos jours, tu vois.
Ouais,
c'est une espèce
ouais.
de réflexion qui m'amène à penser que tu es de ton temps, mais aussi tu es d'une autre époque. Ou en tout cas, tu n'es pas toujours dans ton temps. Tu regardes ton temps aussi. Tu es capable de prendre une distance. I don't have any thoughts of my own. I'm afraid you will know when it's time. Still, I don't know if you're really that broken inside, but you look caught exactly how you did the night that we met on the sidewalk when you followed me home. Crawl out your heart till the break of dawn. You were free then, as you're free now.
Comme beaucoup de gens, je sens que quand on parle de nowadays, ou je pense qu'il y a. Il y a tellement de gros. J'ai l'impression qu'on n'est plus à la même époque qu'on était en 2014. J'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde qui vieillit ou c'est parce que tout le monde qui rentre dans sa trentaine sent qu'il y a une transition, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que la courbe a fait ça, puis qu'à partir de 2015, ça a fait ça, puis je trouve que le climat... ben Internet, là, je pense qu'il faut... L'Internet a changé la donne à une vitesse grand V, puis à une vitesse exponentielle, puis qu'il y a plein de... de code puis de manière d'aborder la vie qui sont passés en désuétude à l'intérieur de 2-3 ans, alors que d'habitude, donc j'ai l'impression que je voyais les jours passer de façon plus graduelle, puis que depuis 2014, je suis comme, oh, c'est quoi ce monde dans lequel on vit? Je pense que c'est beaucoup à ça que je fais référence, qu'il y a une espèce de grosse coupure dans la manière d'aborder la vie, puis de vivre les problèmes, puis de la nature des problèmes aussi, puis la nature des conflits auxquels on fait face. Puis il y a quelque chose de qui a accéléré. En tout cas, il y a un changement de paradigme assez drastique, puis que je pense qu'on est tous un peu perdus, on est tous un peu... on n'a pas eu le mémo, on n'a pas eu les outils pour savoir comment naviguer là-dedans, puis on est tous un peu perdus, puis dépassés par les événements.
Comme artiste puis comme personne, comment tu te sens là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète?
Ouais, ben oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, je pense que j'ai pas une analyse. Je pense que j'ai rien à ajouter sur le sujet qui a pas déjà été dit. Je pense qu'on est tous un peu en mode à essayer de trouver nos repères puis trouver comment on va pouvoir continuer à vivre notre vie sans virer complètement fou. Fait que je pense qu'en ce moment, je suis encore dans la compréhension accuser réception.
OK, accuser réception. Puis en même temps, tu produis, tu agis. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne l'espoir ou qu'est-ce qui te donne le goût de poursuivre dans tout ce que tu fais?
Ben, je pense que c'est juste très égoïste comme tous les entreprises que quelqu'un peut faire. Je pense que le but premier, c'est de remplir mon petit vide intérieur puis de me faire dire que je suis bon, puis que je suis valide, puis que j'ai raison d'exister. Là. Je pense que ça serait pas très honnête de prétendre que c'est autre chose, qu'une entreprise artistique est autre chose qu'une entreprise extrêmement égoïste. Et après ça, les dommages collatéraux font que ça peut parler à du monde, que ça peut faire du bien à des gens, puis tout, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le font par altruisme.
Ouais, je comprends. Tu n'es pas un sauveur et tu n'as pas de message à donner aux gens en leur disant « Suivez-moi, on va par là ».
Absolument
pas. Ta démarche, c'est pas ça. Tu continues, toi, dans ta démarche, de « Voici qui je suis », puis je vous présente qui je suis, puis je continue avec vous. On apprend à être qui on est, dans le fond.
Je pense que la musique, c'est la chose la plus importante puis la moins importante aussi. Là. Ça reste, à la fin de la journée, c'est des tunes, tu sais, c'est toi... C'est pas, on refait pas le monde. Je pense que ça, on peut accompagner les gens qui refont le monde et qui vont améliorer le sort de l'humanité.
Mais en même temps, pense à Cohen, pense à ces artistes que tu nommais tout à l'heure. Ils laissent leur marque.
Ouais, mais ça, c'est l'exception, c'est pas la règle.
Non, peut-être, mais l'artiste laisse sa marque, tu penses pas? L'artiste,
oui, mais tu sais, après ça, je pense à Cohen, puis je suis persuadé qu'il était un très mauvais père dans le quotidien, qu'il était très égoïste dans ses relations. C'est impossible d'être un géant, dans ton domaine sans négliger tout le reste. Que tu sois un homme d'affaires, un artiste, un sportif, pour être un géant, il faut que tout tourne autour de toi, puis que tu sacrifies tout le reste, puis que tu... Fait que, tu sais, Cohen, c'est un artiste magnifique, mais on dirait que j'aurais pas envie d'en savoir trop sur sa vie privée, parce que je suis sûr qu'on serait déçus. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais...
Sur ces belles paroles, merci de ta capacité de voir les choses de façon réaliste et rêveuse, parce que je continue à penser que tu as les deux d'une façon très, très forte.
Oui,
ça fait. Et ça crée l'artiste que tu es avec ses frictions et ses aisances, avec sa créativité puis ses messages. Merci pour l'entrevue, merci pour ce que tu fais comme travail.
Merci à toi, vraiment.
Puis je te souhaite une belle continuation.
Merci beaucoup, Jean. Un grand plaisir. À bientôt.
À bientôt. Vous écoutez Vos désirs sont des ondes sur la plateforme Ondes à part, une web diffusion réalisée et animée par Jean Gagnon-Doré.